Espoir et désespoir. 7 janvier 1917. Les ondes créées par le sillage de l'Aurora Australis mettent en mouvement des plaques de glace qui oscillent dans les eaux calmes de la Polynie de la mer de Ross. Un ciel d'azur, barré en altitude de fin cirrus, domine le paysage. À bord de l'Aurora, un homme bien charpenté, dont le visage est tanné par les épreuves de la vie, Sir Ernest Shackleton. Il apprécie le spectacle grandiose, délimité sur tribord par les hautes montagnes englacées de la chaîne de Victoria. Le boss vient ici pour récupérer 9 hommes. Leur mission était de constituer des dépôts de vivres entre la base anglaise située sur l'île de Ross et le pied du glacier Butmer, celui-là même que Shackleton puis Scott avaient franchi pour atteindre le plateau polaire. Ces vivres étaient destinés à la première expédition transantarctique britannique. Celle-ci était censée, depuis la mer de Weddell, côté Atlantique, rejoindre la mer de Ross, côté Pacifique, via le pôle Sud. Une folie. Les ennuis s'étaient accumulés. Côté Atlantique, les hommes de l'Endurance, menés par Shackleton lui-même, n'avaient jamais réussi à prendre pied sur le continent. Côté Pacifique, les choses n'avaient pas bien tourné non plus pour l'équipe emmenée par le capitaine Enas McIntosh. Le roi Australis, sérieusement endommagé après avoir cassé ses amarres, avait dû quitter précipitamment la mer de Ross, sans pouvoir réembarquer les hommes de l'expédition, dépôt de vivres. Avec un gouvernail de fortune, tant bien que mal, le navire était parvenu à atteindre Port Chalmers en Nouvelle-Zélande. C'est là que Shackleton l'avait retrouvé, réparé, prêt à appareiller. Le 20 décembre 1916, l'Aurora avait mis le cap sur la mer de Ross pour voler au secours du reste de l'expédition. Shackleton espérait les retrouver tous valides. Il mettrait ainsi un heureux point final et une épopée unique dans toute l'histoire de la conquête des pôles. Engoncé dans son pull marin, sans veste pour rester libre de ses mouvements, torturé par l'angoisse de ne pas retrouver ses hommes, Shackleton, penché sur la proue englacée, ne détache pas son regard du sud. Il aperçoit enfin l'Erebus, qui, de ses presque 3800 mètres, domine la barrière de glace. L'île de Ross n'est plus loin. Shackleton revit les mouvements heureux de son expédition 1907-1909. La découverte par Edgeworth David d'un lac de lave lors de la première ascension au sommet de l'Erebus. L'ascension de Douglas Mawson au pôle magnétique sud. Et l'aventure que lui-même, Jameson Adams, Eric Marshall et Frank Wild ont menée. Une extraordinaire aventure. Le 19 janvier 1909, ils étaient parvenus à 100 miles seulement du pôle géographique sud, mais avaient dû renoncer faute de vivres. Avec émotion, il se remémore le moment où, pour ce haut fait, le roi Édouard VII l'avait fait chevalier. Les paysages de la mer de Ross, si différents de son Irlande natale, défilent rapidement devant l'Aurora. Une immense barrière de glace se dresse devant Shackleton. Il désigne au capitaine Davis les fumerolles du stratovolcan, transportés à l'horizontale sous l'effet de vents violents en haute atmosphère, témoin de la rude réalité d'un environnement extrême. Son esprit s'échappe un instant vers l'Europe. Voici quelques mois, à l'automne 1916, dans les champs de la bataille de la Somme, les soldats britanniques ont payé un lourd tribut au dieu de la guerre. Être si loin de son peuple, en des moments si lourds de son histoire, désespère Shackleton. Certes, le 3 avril 1914, Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, lui avait donné l'ordre de continuer. Il n'était donc pas un déserteur quand l'Endurance avait quitté la Grande-Bretagne, au moment même où son pays entrait en guerre. Depuis l'appareillage de Plymouth, Shackleton n'avait eu aucun répit dans son combat contre les éléments et contre le mauvais sort. Leur superbe trois-mâts broyé par les glaces de la mer de Weddell, l'équipage en dérive avait dû trouver refuge sur l'île de l'éléphant. Avec une inébranlable détermination, Shackleton avait fermé la chaloupe James Kern, une véritable odyssée de 800 miles nautiques, pratiquement la distance pour aller de la Norvège au Groenland, à la rame, avec cinq compagnons. Le boss avait en 16 jours atteint la Géorgie du Sud. Le 13 août 1916, enfin, avec l'aide des Chiliens, il avait pu retrouver sur les grèves de l'île Ingrate toute son équipe atlantique, saine et sauve. Pas un homme ne manquait à l'appel. Shackleton réalise que sans l'aide du Chili, ce pays riverain de l'Antarctique, le sauvetage des Britanniques aurait été impossible. En quittant l'Angleterre, il espère que l'océan Austral resterait à l'écart des conflits. Hélas, bien loin de la vieille Europe et du théâtre des opérations terrestres, l'Atlantique Sud s'était trouvé rapidement mêlé à la Première Guerre mondiale. Le 8 décembre 1914, alors que l'Endurance quittant la Géorgie du Sud mettait le cap sur la mer de Weddell, à quelques centaines de miles, au large des Falklands, l'escadre allemande conduite par l'amiral von Spee avait été défaite par la marine anglaise. Près de 1900 hommes avaient trouvé la mort dans un enfer glacé. Pendant toute sa longue expédition polaire, Shackleton ne peut s'empêcher de penser aux Falklands. Il sait que son pays est en conflit avec l'Argentine, qui revendique la propriété de ces îles, qu'ils appellent les Malvinas. Son espoir est que nul dirigeant argentin, profitant de la Première Guerre mondiale, soit assez fou pour déclencher une guerre sur ces territoires du Grand Sud qui appelle à la solidarité et non à l'agressivité. Tous les soirs, il prie Dieu pour qu'une telle catastrophe n'ait jamais lieu. Le 10 janvier 1917, l'Aurora navigue aux approches du Cape Rhodes, île de Ross. Nul signe de vie. L'angoisse étreint le cœur de Shackleton. Heureusement, au moment de quitter la base, il découvre une lettre expliquant les raisons du transfert de l'équipe à Cap Evans. Mieux, au moment d'appareiller, six hommes, avec chiens et traîneaux, surviennent. On devine les effusions. Hélas, Shackleton apprend la tragique nouvelle de la mort de Spencer Smith, survenu pendant le trajet de retour de l'expédition Dépôt de Vivres, puis la disparition du capitaine McIntosh et de Victor Hayward, emportés à la dérive sur une plaque de banquise, et sans doute perdus à jamais. À bord de l'Aurora Australis, les sept survivants quittent l'île de Ross une semaine plus tard. Une dernière fois, Shackleton laisse son regard errer au pied des falaises englacées de Granite Harbor, à la recherche de quelques vestiges des deux disparus, en vain. Moins trois, se dit Shackleton. Seul sur la plage arrière, il ne peut retenir ses larmes. Épilogue. L'Aurora aborde Wellington en Nouvelle-Zélande le 9 février 1917. Shackleton et ses hommes n'ont qu'une pensée, revenir le plus vite possible au pays pour prendre leur part au fardeau national. Sur les 56 aventuriers de la première tentative transantarctique, 53 reviendront avant port en Angleterre. Trois d'entre eux seront tués en action pendant la guerre et cinq seront blessés.